Bonjour, vous êtes bien sur RDWA dans l'Étoile Polaire, l'émission d'astronomie amateur. Bienvenue à vous. C'est Frédéric qui vous parle et avec moi dans le studio, il y a Pierrick. Comment
Salut.
Ça va, Pierrick?
Ça va, et
ça
toi
va? Bah, content de te retrouver.
Ouais, moi aussi.
Alors, c'est la première émission de l'Étoile Polaire aujourd'hui sur RDWA.
Et ouais, ça y est, on y est.
Toutes les semaines, on va parler d'astronomie, d'observation du ciel beaucoup. Hein. On a dit astronomie amateur. Donc on observe le ciel, nous.
Oui, on essaie juste de regarder ce qui se passe, de comprendre un peu, mais à un niveau amateur.
Ok, alors, aujourd'hui, le sommaire de l'émission, on va commencer par ça, comme ça vous allez un petit peu voir dans quelle direction on va aller. Donc on va commencer par la première rubrique qui sera le ciel ce soir. On va vous parler de ce que vous pouvez voir si vous sortez la nuit, si le ciel est dégagé, s'il n'y a pas trop de lampadaires qui vous gênent pour observer. Alors, qu'est-ce qu'il y a à voir dans le ciel? À voir à l'œil nu ou à voir aux jumelles ou au télescope, hein, Pierrick?
Un tour d'horizon de ce qui se passe la nuit dans le ciel.
C'est ça. Ça, ce sera la première rubrique. Et ensuite, on discutera sur un thème, on va dire d'actualité scientifique au sens large. Actualité, ça peut être récente, mais pas forcément. Ça peut être quelque chose qui nous a un peu marqué, dont on a envie de discuter.
Voilà.
Et donc cette semaine, Pierrick, le thème, tu m'as dit, c'était...
Eh ben, j'aimerais bien qu'on parle des ondes gravitationnelles.
Les ondes gravitationnelles. Donc là, ça attaque dur dès la première émission. Ok. Ensuite, la rubrique d'après, c'est la question de la semaine.
Donc, une personne qui nous pose une question, et on essaye d'y répondre au mieux qu'on peut.
Allez. Et là, c'est une question de ta fille, je crois,
oui,
cette semaine.
Ouais.
Très bien. Ensuite, ce sera un point d'astronomie. Alors là, c'est une rubrique que je vais animer principalement et qui, disons, dans laquelle on va expliquer un thème, une question, aborder un sujet d'astronomie. Et donc ça, c'est quelque chose dont on se rend vite compte quand on commence à discuter de... des questions de l'espace, de tout ça, des étoiles, et ben c'est que très vite, tout est lié et on tire un fil et d'un coup, on arrive à parler de trous noirs, de Big Bang, de cosmologie.
C'est un couloir avec beaucoup de portes et on va essayer de ne pas trop se perdre dans ce couloir.
Voilà. Donc on va essayer d'y aller tranquillement et d'aborder les points les uns après les autres. Pour pas se saturer la tête non plus. Hein. On reste dans le plaisir aussi d'observer et la beauté du ciel. Ok, donc après ce point-là, eh ben, il y aura une petite pause musicale quand même, justement pour se détendre un peu. Et ensuite viendra une rubrique sur l'exploration spatiale. Alors là, c'est toi, Pierrick, qui nous présentera cette rubrique.
Ouais, je vais essayer de vous parler de l'exploration spatiale depuis que ça existe jusqu'à maintenant, sans prétention, en essayant de faire de mon mieux. Et du coup, aujourd'hui, on va parler des sondes Voyager.
Sondes Voyager, ok, très bien. Et ensuite, il y aura la sixième et dernière rubrique de cette émission. C'est la rubrique Abra qu'on l'a appelée, parce qu'elle va regrouper plusieurs thèmes, en fait. Donc, en hommage à Gottlieb. Hein. Donc là, on va commencer par un cycle d'émissions consacré à Newton. Donc là, c'est les thèmes où on va un peu présenter des personnages un peu mythiques et illustres de l'histoire des sciences et surtout de l'astronomie ou de la physique.
Mmh. On va parler un peu aussi de la mythologie des constellations.
Ouais.
Essayer de voir comment ils voient les étoiles dans d'autres pays, d'autres cultures.
D'autres cultures, à travers le temps aussi, toutes les civilisations qui ont observé le ciel. Donc là, toutes les constellations qu'on connaît, elles nous viennent du ciel grec. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de noms qui sont quand même liés à la mythologie grecque. Donc voilà, parler un peu des...
Mais il n'y a pas que.
Mais pas que, très clairement. Ouais. Et donc parler de ça. Et ensuite, il y avait aussi une autre thématique qu'on voulait aborder dans cette rubrique à Brac. C'était aussi, toi, Pierrick, un choix de parler des alignements
de
pierres, les mégalithes, les choses comme ça, les menhirs.
C'est en lien avec ce qu'on disait, c'est comment ils observaient le ciel avant, comment ils s'organisaient avec ça. C'était leur repère temporel et qu'est-ce qu'ils avaient mis en place pour regarder, comprendre ce qui se passe et mesurer le temps, etc.
Ok. Et ben on verra tout ça ensemble donc un peu plus tard. Voilà pour le sommaire de cette émission. Donc, au niveau de la musique, hein, vous entendez ces douces notes. Là, on rend hommage à Brian Eno et à sa musique for Airport qui va nous accompagner tout au long de l'émission. A priori, au long de toutes les émissions.
Pour l'instant.
Toutes les semaines, voilà. Et aussi, on a le générique, là, c'est Jimi Hendrix, Sir Stone from the Sun, du premier album, Are You Experienced? Voilà. Alors, on va commencer donc par le ciel ce soir.
Ce soir, ouais.
Alors, imaginons, on sort devant chez nous ce soir, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit une étoile orange qui est quand même bien en place dans le ciel, et ça c'est le ciel des barons, le taureau. Donc le triangle du taureau avec à côté les Pléiades, la main ouverte.
Alors les Pléiades, c'est quoi?
Alors les Pléiades, donc comme je dis, c'est un amas ouvert, ça veut dire une zone de formation d'étoiles. Donc concrètement, ça ressemble, il y a quand même du gaz, donc de la nébulosité, hein, c'est un peu luminescent. C'est pas très grand, mais ça se voit très très bien à l'œil nu, ça a une taille définie. Et au sein de ce gaz un peu bleu luminescent, il y a des étoiles. Ça fait comme une mini grande ours, on en voit...
Ça fait un petit tas d'étoiles.
Ouais, c'est ça, un petit tas d'étoiles baignées de gaz lumineux, quoi. Luminescent.
Nébuleux.
Nébuleux. Donc ça, c'est vraiment joli, et ça, particulièrement aux jumelles. C'est vraiment beau, ça peut s'observer au télescope aussi, mais ça sert à rien de trop grossir.
Et donc, c'est où ce soir?
C'est, là, c'est à côté d'Aldébaran, hein. Les Pléiades, on les voit, donc en ce début de soirée. Quoi. On n'est pas très loin d'Orion aussi. Hein. Orion, là, qui est plein sud, qui brille dans le ciel avec sa ceinture, les trois étoiles alignées au centre.
Ça, on peut pas le rater, c'est inévitable.
On peut pas le rater. Avec
trois étoiles bien alignées, ouais. En forme de petite casserole encore.
C'est
mais...
ça. Et on a les deux... Les deux grosses étoiles, il y en a une qui est orange et l'autre plutôt bleutée, Rigel et Bételgeuse. Voilà, et si on prolonge la grande ceinture d'Orion, on tombe sur une étoile extrêmement brillante qui est Sirius, dans le grand chien, elle aussi phare.
C'est la plus brillante du ciel, non Sirius?
Non, c'est Vega, la plus brillante du ciel dans la lyre. Donc voilà pour les constellations principales, on voit aussi évidemment les Gémeaux à côté, et plus tard dans la nuit, on va pouvoir observer le lever du lion, belle constellation aussi.
Au niveau voilà des planètes, en ce moment, on voit Vénus.
Au niveau des planètes, on voit Vénus, effectivement, au moment du coucher du soleil. Hein.
Oui.
Alors tiens, on peut le dire ça, Vénus, l'étoile du berger. Donc, comme tu viens de le dire, c'est planète. L'étoile du berger n'est pas une étoile. Ça, c'est une question qui revient vraiment très, très souvent dès qu'on parle d'observation du ciel.
Ça brille comme une étoile, mais oui, c'est une planète.
Oui, voire même plus. Hein. C'est vraiment un phare.
Oui.
D'ailleurs, tu me disais l'autre jour, là...
En ce moment, c'est très beau. On la voit très bien. On la voit très bien. Côté Justin, elle est magnifique. Elle se lève le soir à la pénombre. Mmh. Et c'est un beau spectacle.
Sûr. Ok, donc voilà pour l'actualité du ciel. Alors, on va passer à la rubrique suivante sur les ondes gravitationnelles. Tu me disais, Pierrick, que tu avais vu quelque chose dont tu avais envie qu'on parle.
J'aimerais un peu mieux comprendre ça, parce que c'est assez compliqué. Ce que j'ai compris, moi, c'est qu'ils avaient réussi à mesurer une onde gravitationnelle. Mmh. Alors, c'est quoi une onde gravitationnelle? Pour moi, c'est quelque chose qui va déformer l'espace-temps. Alors, ça, c'est un peu compliqué à comprendre, mais... Ça me paraît fou de mesurer quelque chose qui va déformer de la matière, en fait. Mm. Qui va prendre de la matière et la modifier. Donc, ça, je trouve ça assez incroyable. J'ai du mal à saisir. Peut-être tu peux nous expliquer ça plus simplement, Fred.
Alors, je peux essayer. C'est clairement des sujets qui sont quand même pointus, complexes. Mais bon. Alors, tu parlais de déformer l'espace-temps... C'est ça, c'est effectivement ça la propriété un peu qu'on attribue à l'onde gravitationnelle, comme une onde mécanique, une onde par exemple de vibration de l'eau. On jette un caillou dans l'eau, ça fait une onde à la surface de l'eau. Bon, on imagine ça, mais dans l'espace-temps. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire
à l'échelle atomique, du coup, à l'échelle de la matière qu'on mesure ça ou...
Alors non, là, ça se joue pas une question de matière. Ça se joue vraiment dans la propriété de l'espace lui-même. C'est-à-dire, par exemple, imagine une pente. Une pente dans la montagne,
oui.
Elle est plus ou moins pentue. qu'elle soit enneigée ou herbeuse, en fait, c'est encore une autre affaire, quoi. Mais là, ce serait plus quelle est l'inclinaison de la pente qui t'attire vers un corps, par exemple.
D'accord.
Tu vois. Donc, attends, onde gravitationnelle. Pour expliquer ça, on prend une analogie. On imagine, en fait, une orange sur un oreiller. Oui. Alors, on imagine un oreiller et on imagine que ça, c'est l'espace-temps. Mais ce serait un espace-temps qui aurait une dimension de moins, qui serait qu'à deux dimensions, par exemple, qui serait plat.
Imaginons. Un plan, quoi.
Voilà, un plan. En fait, ce plan, il s'avère qu'il est courbé. Mais on ne peut pas le voir si on reste dans le plan. Donc, c'est tout ça, l'idée de la dimension en plus, c'est le truc qu'on ne peut pas concevoir quand on est à l'intérieur.
C'est dur pour notre cerveau donc de comprendre là. Ça.
Ouais. Donc c'est pour ça que souvent, on fait des analogies où on ramène à une dimension de moins pour pouvoir comprendre quand on en rajoute une. Et là, du coup, la troisième dimension joue le rôle du temps. Là où d'habitude, c'est la quatrième, et donc on n'imagine pas. Parce que nous, notre cerveau, il voit qu'à trois. Ouais. Bon, bref.
Ok.
Donc l'idée, c'est ça. Et donc, on imagine qu'on vit sur cet oreiller, que c'est l'espace-temps, et là, d'un coup, on pose une orange dessus. Et ça, ça va être, par exemple, une galaxie, quelque chose de très massif.
Une étoile.
Une étoile, voilà, vraiment massive.
Ouais.
Et bien voilà, on pose l'orange, et bien qu'est-ce qu'elle fait? Alors imaginons maintenant un rayon lumineux qui passe au voisinage de cette orange. Normalement, le rayon lumineux, si l'orange n'est pas là, il suit la surface lisse de l'oreiller.
Oui.
Mais là, d'un coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il va suivre la courbure qu'a générée la masse de l'orange.
Il va se déformer.
Et donc, il va suivre une trajectoire différente, courbe.
D'accord.
Mais courbe dans une dimension supplémentaire. Si je vis dans le plan, je ne me rends pas compte que je courbe.
Il va descendre,
ouais.
Arriver en bas et remonter.
Bon, voilà. Donc, des ondes gravitationnelles, ce seraient des vibrations dans ce niveau-là, à ce niveau-là. Donc, on faisait l'analogie avec les vibrations de l'eau quand elles sont...
D'accord.
Mécanique, bah là ce serait ça. Alors je vais pas épiloguer plus que ça. Maintenant, sur l'histoire de détecter des ondes gravitationnelles, ça veut dire quoi? Bah, concrètement, c'est prendre par exemple un objet extrêmement massif, comme ce qu'on va imaginer être un trou noir ou des choses comme ça, qui déforme de façon très importante l'espace-temps,
ouais.
Et d'essayer de voir ce qu'on peut capter au niveau gravitationnel de ces objets-là. Mais ça, ça demande des systèmes qui sont extrêmement sensibles. Et ça demande aussi d'avoir une très très bonne connaissance de tout ce qui se passe autour. C'est-à-dire de la gravitation de la Terre, de tous les effets qui sont dus à des corps beaucoup plus proches, beaucoup moins massifs, mais quand même tellement beaucoup plus proches que...
Il y a beaucoup d'interférences, voilà. C'est dur de trouver la bonne
méthode. Donc détecter ça, c'est à la fois une espèce de... d'avancée théorique pour eux parce que ça valide le modèle. On fait une expérience, c'est comme ça que la physique elle fonctionne. On fait une expérience, on fait une mesure, et de cette mesure, ça correspond à ce que la théorie a prédit. Alors on dit que la théorie est correcte.
Ça confirme encore une fois la théorie. Mais...
Voilà. Ouais. Et là, en l'occurrence, ils n'avaient jamais eu de preuves réellement pratiques de cette théorie d'onde gravitationnelle. Et donc, il y a ça, cette avancée-là, et aussi une avancée technique, en fait, d'être capable de détecter des signaux qui sont aussi faibles dans le bruit ambiant.
Et ouais.
Donc, d'accord. C'est pour ça qu'il y a eu, il me semble, d'ailleurs, des prix Nobel associés à
oui,
ces
oui,
découvertes.
Oui, assez récemment,
travaux.
Ouais.
Voilà, je vais pas...
Non, mais c'est bien.
En fait, je crois que je pourrais pas vraiment en dire plus non plus, hein, pour être honnête. C'est quand même des sujets de physique théorique qui sont extrêmement pointus.
C'est déjà suffisant, merci.
Eh bien, avec plaisir. Alors, on passe à la question de la semaine. La question de la semaine, on a dit que peut-être à l'occasion, dans l'émission, on ferait venir des invités.
Oui.
Ou on enregistrerait des questions de gens autres que nous. Donc, pour l'instant, ça va être toi, Pierrick, qui va jouer ce rôle. Alors, je t'écoute.
Alors, c'est une question de ma fille qui se demandait qu'est-ce que c'était qu'une étoile filante.
Une étoile filante, ok. Alors, étoile filante, il y a deux mots, étoile filante, c'est pas une étoile, en fait. C'est ça un peu le piège qu'il y a dans ce... On imagine une étoile du ciel qui se met à tomber, en fait, c'est pas du tout ça. D'ailleurs, l'étoile filante, ça se passe dans l'atmosphère de la Terre, en fait. Et c'est, par exemple, une météorite ou un petit débris spatial ou un peu n'importe quoi... qui rentre dans l'atmosphère, capté par le champ gravitationnel de la Terre.
Ouais.
Hein, c'est un peu le fil conducteur de cette émission, la gravitation, on va la retrouver tout du long. Et qui, en fait, au contact du gaz, va s'échauffer et va se mettre à ioniser l'atmosphère, qui, du coup, va dégager de la lumière et faire ses traînées dans le ciel. C'est ça, une étoile filante.
Ok. Ça va ioniser et pas brûler ou...
Ça fait un peu les deux, mais ce qu'on voit, c'est pas le fait que ça brûle, en fait. C'est plutôt, en fait...
C'est le frottement contre l'atmosphère, en fait. L'air contre...
Ben, c'est ça, contre l'air. L'atmosphère, ouais. C'est les molécules de l'air, les molécules de gaz de l'air.
Et en ça fait, va tellement vite, ça projectile... va à quelle vitesse quand ça arrive?
Ben, en fait, dans l'espace, l'ordre de grandeur du déplacement, c'est le kilomètre par seconde.
D'accord. Donc,
c'est quand même rapide.
Donc, ouais, un kilomètre en une seconde, ouais, ça
voilà.
va vite. Ouais.
Donc typiquement, ils arrivent dans l'atmosphère, ces petits débris, ils sont à 10 kilomètres par seconde, par exemple. C'est d'accord. une moyenne, hein.
Pas kilomètre heure, kilomètre
non,
seconde.
Oui, kilomètre par seconde. Ouais.
Oui, oui.
Voilà, donc ils rentrent comme ça, et eux, en fait, effectivement, ils vont frotter contre les molécules de gaz.
De l'atmosphère,
donc,
ouais.
Donc à l'échelle moléculaire, atomique. Et donc ça, ça va générer effectivement qu'eux, ils vont s'échauffer, ces corps, et ils vont commencer à se consumer.
D'accord.
Donc s'ils arrivent jusqu'au sol, ben là, ils vont faire un petit cratère. S'ils sont très gros, ils vont faire un gros cratère. Et là, on a ce qu'on appelle une météorite.
Ouais.
Et si ça se consume avant d'atteindre le sol, bon, voilà, c'est juste une étoile filante.
Okay.
Mais ce n'est pas ça qui émet la lumière. Je disais, ouais, c'est, en fait, ce frottement va arracher des électrons aux molécules, donc à certains des atomes, des molécules d'air.
Oui.
Et du coup, si elles arrachent des électrons et ionisent, c'est ce qu'on appelle ionisé.
D'accord.
Donc les molécules
arracher
du coup
électrons.
Deviennent chargées électriquement.
Ok.
En fait, du coup, ça c'est instable et donc elles vont capter des électrons parce qu'il y a toujours des électrons qui se baladent dans la matière. Ils vont les capter et en les captant, ça va générer de la lumière. C'est
d'accord.
ça, ioniser l'atmosphère.
Ah ok, d'accord. C'est un mouvement de.
C'est un mouvement
d'électrons.
Ouais.
Ok.
Donc de l'électricité, et de la lumière, voilà.
Ok.
Ok, donc voilà pour cette question de la semaine. Alors on va arriver au point d'astronomie. Donc là, on va un peu plus prendre le temps. Cette semaine, on va parler de l'étoile polaire. Alors, c'est le nom de l'émission. Et c'est aussi le nom d'une étoile. Alors, cette étoile... bon, tout le monde, hein, enfin, tout le monde a quand même au moins entendu parler
oh,
une
oui,
fois
je pense.
Dans sa vie
oui.
d'étoile polaire.
C'est une vraie étoile ?
Donc, c'est une étoile qu'on peut observer, qu'on peut observer dans l'hémisphère nord. Quand même, on précise, parce que c'est un peu ça. Aussi le principe et qu'on peut observer et tout le monde sait ou alors tout le monde a peut-être au moins une fois entendu que l'étoile polaire a indiqué le nord.
Ouais.
Je pense que ça quand même c'est une base qu'on partage tous. Alors pourquoi elle indique le nord ? Ah ça déjà c'est peut-être moins clair. Donc on va parler de ça et aussi on s'était dit Pierrick le un peu un fil conducteur sur cette émission et sur les suivantes, c'est d'imaginer quelqu'un qui sortirait tous les soirs observer le ciel pendant un an.
Ouais.
Et qu'est-ce qu'il verrait, qu'est-ce qu'il apprendrait donc un an, hein, c'est le temps que met la Terre pour faire un tour autour du Soleil. Donc c'est quand même un cycle astronomique majeur pour nous.
Ouais.
Et donc forcément, en un an, eh ben, il y a beaucoup de boucles qui se font hein, sur tous les mouvements autour de, enfin, en tout cas relatifs à la Terre. Quoi. Et en particulier, le ciel redevient le même. Parce que le ciel, il change au cours de la nuit et il change au cours de l'année. Donc c'est ces mouvements-là qu'on observerait peut-être en premier dont on peut parler. Qu'est-ce que t'en
oui.
penses, toi ? T'imagines, tu sors, tu vois quoi d'abord ?
La nuit, je sors.
Bah déjà, tu dis la nuit, il y a le jour déjà.
Le jour ou la nuit ?
Donc ça, on le sait. On sort le jour, on sort la nuit, ça c'est le premier truc qu'on voit. Le soleil qui se lève à l'est, qui se couche à l'ouest, et qui revient... voilà. Et quand le soleil se couche, hop, il y a d'autres lumières qui apparaissent, qui sont les étoiles. Et ces étoiles, bah, effectivement, elles tournent aussi. Elles se lèvent aussi à l'est, elles se couchent à l'ouest. Alors ça tourne. Ça, c'est ce qu'on voit quand même.
Ouais.
Et on voit aussi quoi ?
Et l'étoile polaire dans tout ça, du coup
on voit qu'il y en a une qui bouge pas.
Ah.
Tout le temps, on a l'impression que ça tourne autour de ça. Ça, c'est ce qu'on voit. Donc, pour comprendre ça, ben voilà, on va pas. C'est clair, je pense, pour beaucoup, pour la plupart d'entre nous, mais la Terre, c'est quand même une grosse boule. Ou des fois, en argot de physique, on dit un patatoïde.
Parce que quoi, c'est pas une sphère parfaite
que, voilà, exactement. Donc, on a quand même une boule qui tourne sur elle-même autour d'un axe, hein, comme une toupie.
Oui.
Et cet axe, si on le prolonge dans le ciel à travers l'espace, selon ce que nous on appelle le nord, et ben on tombe sur cette étoile polaire.
D'accord.
Donc c'est pour ça qu'elle ne bouge pas, parce qu'on tourne autour de cet axe et elle est dedans en fait.
Ok.
Donc d'ailleurs, on peut faire. Ça, c'est un truc qui est assez simple à faire, avec un appareil photo où on prend des poses un peu longues, mais type une heure, deux heures, et on pose l'appareil sur un trépied. on lève le miroir et on imprime la pellicule, ça fait des photos qu'on appelle circumpolaires. En fait, on voit au centre la polaire qui ne bouge pas et on voit des arcs du coup, de lumière
tout autour, qui tournent autour de ça.
Ils sont d'autant plus grands qu'on est éloigné de l'étoile polaire. Il y a une... enfin, on la voit, la rotation.
Ah ouais.
C'est des photos qui se trouvent facilement. C'est... Ces photos circumpolaires, c'est sympa à voir au moins une fois. Quoi.
Ouais, c'est vrai que c'est joli.
Ok, alors...
On va faire une petite pause musicale ou tu veux...
Ben, on voulait aborder quand même cette idée un peu de géographie étant.
Ah oui.
Ah, t'es pressé d'écouter de la musique, toi. Parce que c'est toi qui as choisi le morceau. Hein. C'était Ben Harper cette semaine.
Ouais, Ben Harper. Ça serait Welcome to the Cruel World.
Ok. Non, non, on va quand même... donc, imaginer... cet homme qui observe le ciel, parce qu'il y a quand même d'autres choses à dire. Ok, on voit que tout tourne autour de l'étoile polaire, mais on voit aussi la Lune. Il faut quand même la mentionner. Quoi. Mmh. La Lune, il y a quand même des choses étranges. La Lune, elle nous montre toujours la même face.
Ça c'est particulier. Ouais.
Ça, c'est quand même particulier. Et en plus, elle a des phases, c'est-à-dire que sur un cycle d'à peu près 28 jours...
On ne voit jamais la même chose.
Ouais. On ne voit jamais la même chose. Voilà. Elle passe de pleine Lune à nouvelle Lune et les différents quartiers. Donc ça, c'est quand même... Et ça, c'est les premiers calendriers. Ouais. Le jour, la nuit, les jours et le calendrier lunaire. Ça, ouais. Depuis la préhistoire, c'est clair.
Mm-mm. C'est ce qui brille le plus dans le ciel, qui est le plus facile à observer.
Ouais. Et ouais. Ça nous amène justement de l'astronomie amateur toute simple, qui est observer la Lune.
Ouais.
Bon, déjà, le nu, c'est toujours un plaisir. Mais franchement, que ce soit à la jumelle, déjà, c'est bien. Et au télescope,
ouais, c'est vraiment
c'est
génial.
Magnifique. Mais ouais. Surtout, alors, c'est plus vous avez du bon matériel, plus vous pouvez grossir et plus c'est de voir les cratères, les détails. Et surtout dans la zone du Terminator, c'est-à-dire la zone d'ombre. Hein,
entre la lumière et la nuit sur
ouais,
la Lune.
C'est ça. Ouais. Parce que là, du coup, c'est
tu vois
la
les
Lune,
reliefs
elle est
un peu.
Éclairée par le soleil. Hein. La Lune, elle émet pas de lumière. La Lune, c'est pour ça qu'il y a des phases. Bon. Ça, il faudrait faire un schéma où on consacrerait une émission à ça, mais voilà, elle ne fait que réfléchir la lumière du soleil. Et
dans cette zone, ouais, ça crée des ombres, en fait.
Dans cette zone, du coup, la lumière du soleil arrive en incidence rasante. Donc, elle projette des ombres très longues, et du coup, comme on voit les ombres, on voit le relief, en fait.
Ouais.
On peut même voir, en fait, des fois, par exemple, si des fois, vous avez des cratères, et au centre du cratère, il y a comme une espèce de pic qui revient. Et qui est plus haut que le bord du cratère. Ça, c'est une formation géologique d'impact de cratère sur la Lune.
Ok.
Et comme il n'y a pas d'atmosphère, c'est pas érodé aussi. Les cratères, ils sont encore visibles parce qu'il n'y a rien qui est venu les user.
Ah oui, d'accord.
Il n'y a pas de tectonique des plaques, il n'y a pas de renouvellement de la croûte, et il n'y a pas d'atmosphère pour user, il n'y a pas d'eau qui ruisselle.
Eh oui.
Donc ça reste.
Ça fait des milliards d'années que ça n'a pas changé, quoi.
Des
millions.
Ouais, des centaines de millions, des dizaines. Voilà, bon, bref. Et donc, dans cette zone, on peut voir parfois le cratère au centre du noir et juste, du coup, un point lumineux qui est le sommet de
c'est étonnant, ça. C'est remonté, la météorite, elle est...
Ça, c'est un peu comme quand on lance une pierre dans l'eau. Hein. Il y a ça.
Ah oui, il y a cette espèce de goutte qui remonte quand on regarde au ralenti. Là.
Ouais, au centre. Bah, c'est ça.
Oh, ouais, génial.
Bon, bref.
La classe.
Donc on parlait de ça, de la Lune, voilà. Et il y a une autre chose qu'on voit quand même, c'est la Voie lactée.
Dans le Diwa, on a de la chance, on la voit bien.
Bah, c'est pas le cas partout. Ailleurs, hein. Mais là, la Voie lactée, voilà, quand on a un beau ciel, on ne peut pas la rater. Quoi. Cette grande traînée laiteuse qui traverse tout le ciel, c'est quand même quelque chose.
Mmh.
Donc cette Voie lactée, on nous dit que c'est notre galaxie. Alors ça aussi, le lien, il n'est pas forcément évident. Donc tout ça, c'est ce dont on va parler hein, dans ces moments un peu de points d'astronomie là. En tout cas pour les quelques émissions à venir. Cette géographie étendue, c'est-à-dire autour de nous, si on regarde un peu, donc là c'est en direction de l'espace, que ce soit vers le nord ou vers le sud. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'il y a? Le soleil, la lune, comment ça bouge, tout ça. Et puis plus loin.
Ouais, okay.
Les étoiles qu'on voit dans le ciel, qui appartiennent à notre galaxie, ça aussi on le dit maintenant. Et les autres galaxies, certaines qu'on peut observer à l'œil nu et les centaines qu'on peut observer au télescope, voire les milliers.
Ouais.
Et plus les télescopes sont gros, plus on peut voir loin. Bon, voilà. Et c'est un peu sans fin.
Mais
quoi.
Tout ce qu'on voit à l'œil nu, c'est quand même beaucoup les étoiles dans notre galaxie. On voit Une autre galaxie, mais sinon...
On voit la grande galaxie d'Andromède, en tout cas.
Ouais, dans votre hémisphère. Ouais.
Et dans l'autre hémisphère, il y a les nuages de Magellan. Après, il y en a peut-être d'autres qui sont... Mais voilà, à l'œil nu, c'est vrai que c'est...
Non, beaucoup, non, ouais.
Les étoiles qu'on voit sont toutes dans notre galaxie.
Ok.
Voilà. On va s'arrêter là pour ce point d'astro. Et puis, on va passer à la musique. À tout à l'heure. Welcome to the cruel world. Hope you find your way. Welcome to the cruel world. Hope you find. Try to enjoy your stay. Yes, it is a cruel world when you're trying to get by. Get up to heaven before I do. I'm gonna tell you. Yes, when I am gone, I will gladly say goodbye.
Put your hands up to the sky. Welcome to the world. Welcome. Welcome. I hope you find your way. Try to enjoy.
Donc maintenant, je vais vous parler de la sonde Voyager, enfin des sondes Voyager. Donc il y en a eu deux qui ont été lancées. Donc elles ont été lancées en 1977, donc c'est quand même un peu ancien. Mais c'est des sondes qui ont fait un énorme boulot à l'époque. En fait, elles ont exploré tout le système solaire autour de Jupiter, Saturne et bien au-delà maintenant. Mm-hmm. Parce qu'elles sont parties dans l'espace interstellaire et qu'elles sont toujours actives. On peut aller voir sur le site de la NASA, du JPL notamment.
Le jet lag, qu'est-ce que c'est le
le Jet Propulsion Laboratory, ouais, qui est un organisme de la NASA qui a créé ces sondes et les a envoyées. Donc en fait, en 1972, quand les budgets commençaient à baisser après les missions Apollo, qui étaient très très coûteuses.
En mission Apollo, c'est le programme lunaire.
C'est le programme lunaire humain.
Ouais. Armstrong et compagnie.
Voilà. Donc là, ils voulaient remettre plein les mirettes à tout le monde. Ils ont bien réussi, j'ai l'impression. Et du coup, après, il y a eu des grosses baisses de budget. Et du coup, le JPL, donc ce fameux laboratoire de la NASA, là, a découvert par des calculs de mathématiciens, etc., qu'en 77, il allait y avoir des créneaux super intéressants pour s'aider de la gravitation, pour envoyer des sondes et les propulser surtout par l'intermédiaire de Jupiter puis Saturne, de propulser ces sondes très loin dans l'univers à des vitesses très fortes, avec peu d'énergie finalement.
Donc ça, c'est l'effet qu'on appelle l'effet de sonde gravitationnelle. Si, c'est ça ?
Ouais.
Non. L'effet de...
Un effet boomerang, quoi. Ça accélère la vitesse de la sonde.
Fronde gravitationnelle.
Fronde, ah oui. Ouais.
On y arrive. Ouais. L'effet de fronde gravitationnelle. Ouais. Donc ça, on peut expliquer, parce que ça veut dire quoi, un créneau de lancement pour des gens qui lancent des satellites ou des sondes au fin fond de l'espace. Ça veut dire qu'effectivement, ils vont pouvoir venir au voisinage d'une grosse planète, se laisser attirer par cette planète et donc accélérer, puisque se faire attirer par
tomber, quoi.
Ça, tomber vers ça. Et ensuite, en donnant un petit coup de réacteur bien placé, ils vont se libérer de l'attraction et continuer leur route, mais en bénéficiant de l'accélération qu'ils auront gardée et que leur aura conféré le champ gravitationnel de Jupiter, qui est la plus grosse planète du système solaire. Et donc, ou Saturne, qui est aussi une grosse planète gazeuse. Donc c'est ça, ils ont vu qu'ils pourraient bénéficier des deux et envoyer du coup très loin la sonde en utilisant peu d'énergie.
C'est ça, c'est un schéma qui se reproduit tous les 176 ans, du coup c'était un bon moment. Donc avant ces sondes, quand même, ils ont envoyé deux petites sondes en éclaireur, les sondes pionnières 10 et 11, qui sont parties explorer Saturne et Jupiter un peu avant, parce qu'à l'époque ils ne savaient pas s'ils pouvaient traverser la ceinture d'astéroïdes, comment ça allait se passer. C'est un peu des essais, quoi.
Donc la ceinture d'astéroïdes, hein, c'est toute une série de débris spatiaux, de petits corps, de gros cailloux, plus ou moins de poussière, voilà, et qui orbitent en fait comme un anneau entre Mars et Jupiter.
Ouais.
Donc on pense que c'est
la théorie de planète,
voilà, non, une planète qui aurait éclaté en fait suite à un gros choc avec
il faut savoir que tous ces morceaux, ils sont... Ouais, mais en fait, tous ces morceaux, ils sont tellement espacés qu'il y a peu de chances de rentrer en collision.
Sûr.
Donc voilà.
Il y a beaucoup de vide dans l'espace.
Ouais, c'est ça. Et donc, ces sondes, elles sont... Alors moi, ce que j'ai retenu de comment elles étaient conçues, alors c'est hyper complexe. Ce que j'ai retenu, c'est que c'était les premières sondes, les sondes Voyager, à avoir des générateurs nucléaires, les GTR. Donc elles ont une grande autonomie et maintenant elles fonctionnent encore. Donc
c'est quoi, 50 ans plus tard presque.
Ouais. Plus.
Plus, ouais.
Et ce que j'ai retenu aussi, c'est que dans les sondes, tout est doublé. Chaque système est doublé. Chaque instrument, ils en ont mis deux.
Oui.
Générateur, c'est pareil. Ils en ont mis deux. Ils ont tout doublé.
Oui, parce qu'on ne peut pas aller réparer là-bas, tout au bout, derrière Jupiter. Derrière, Donc là, maintenant, ces sondes, elles sont où elles doivent... elles sont dans... Je pense qu'elles doivent être dans la ceinture de Kuiper. Hein.
Elles sont dans l'espace interstellaire.
Ouais. Alors, mais entre deux étoiles, ça veut dire, bon...
Mais
parce qu'il y a l'interplanétaire, hein, l'espace interplanétaire entre les planètes, dans un système planétaire. Ensuite, interstellaire entre les étoiles. Et après, on a l'intergalactique aussi.
Entre
les galaxies, on a encore un degré de vide.
Mais là, il faudra encore 42 000 ans pour qu'elle aille chatouiller une autre étoile.
Ouais.
Donc, ça va aller...
Donc, on verra
elle est loin, mais c'est l'artefact humain le plus loin que
mais c'est vrai que
l'être humain n'a jamais lancé.
Tu me montrais là, un livre que tu avais là, en arrivant. Il y a énormément de photos et toutes les photos en rapport avec le système solaire,
c'est Voyager.
Et c'est vrai que ces photos, elles font quand même rêver. Quoi.
C'est magnifique, ouais. C'est un vieux livre d'astronomie qui date de 85, mais qui est magnifique. C'est que des vraies photos et ça a plus de classe que les trucs qu'on voit maintenant.
Enfin, bon, c'est peut-être aussi parce que j'ai grandi avec, mais, mais j'aime beaucoup aussi. Ouais. Là, tu me montrais un des satellites là, parce qu'elle a aussi les sondes, elles ont aussi, tu me disais, exploré visiter les satellites des grosses planètes.
Oui, alors on va d'abord parler de Voyager 1.
Donc, c'est les petits mondes en fait, ces satellites.
Ouais, qui a commencé par Jupiter. Et donc à Jupiter, elle a exploré des planètes, des satellites en fait, notamment Io, qui a des énormes volcans.
Ouais.
Qui se voit de l'univers, donc il se passe des choses incroyables là-bas.
Ouais, il y a c'est les plus gros volcans du système solaire. Il y a des photos, c'est très torturé comme surface, c'est un peu le Mordor.
On voit des explosions énormes qui se voient de l'espace, quand même assez hallucinant. Et sinon, elle a vu Europe. Donc Europe, c'est un satellite qui est assez ridé, comme plein de fractures de. Comme de la glace qui se fracture, on ne sait pas ce que c'est exactement. Mais...
Donc tout ça, là on en parle, on est à la radio, bon forcément on décrit des images, mais si vous, ça vous intéresse, vous pouvez évidemment par internet, une fois de plus, mais quand même, tout ça c'est très très accessible.
Ouais, c'est...
Les sites de, il y a les sites de la NASA ou même vous tapez sonde Voyager. Déjà,
ouais, il y a plein d'infos, c'est... Ouais,
ou Voyager photo Europe, Voyager photo, et là vous avez tout qui sort. Donc ça, c'est des fois c'est intéressant de regarder quand même.
Ouais, d'avoir un visuel, c'est quand même plus chouette. Ouais. Et donc je reviens sur Voyager 1. Donc le choix a été fait pour elle de l'amener vers Titan. Donc elle est après Jupiter accélérée, elle est allée vers Saturne. Et là à Saturne, ils ont choisi de l'emmener vers Titan. Du coup, qui est Titan, qui est intéressante parce qu'elle a une atmosphère assez lourde, comme la nôtre un peu, mais surtout composée de méthane.
Ah. Ouais, donc, pas trop respirable pour les humains.
Bah non, mais peut-être pour autre chose, on ne sait pas. Alors depuis, il y a une petite sonde qui s'est posée dessus quand même, qui a pris une photo, mais elle n'a pas de vie. Hein.
Ok, enfin, donc Voyager, il y avait aussi l'histoire du disque de Voyager, mais je crois que ça tu vas...
Ça sera dans une prochaine émission.
Dans une prochaine émission, t'as dit que t'allais consacrer plusieurs à ces sondes.
Ouais. Et donc aussi, par exemple pour les vitesses comparées aux météorites, Voyager, elle voyage à 17 km secondes.
Bah voilà, je disais autour de quelques kilomètres.
Si elle passe devant nous, on la voit pas passer, quoi.
Oui. Oui, ça va vite.
Ouais. Pour communiquer avec elle, il faut 37 heures aller-retour
à
la vitesse de la lumière, 300 000 km/s. Ouais. Et sinon, elle est à 0,002 années-lumière du Soleil. Donc finalement, elle n'est pas très loin.
Non,
sachant que l'étoile la plus proche, Proxima du Centaure, elle est à 4,5 années-lumière.
Ouais, un peu moins, mais quelque chose comme ça.
Ouais, je crois.
Ce sera le thème de la prochaine émission. On développera ça dans le point d'astronomie. On parlera du temps-lumière. C'est vrai qu'en astronomie, on parle tout le temps comme ça.
Ouais.
On mesure le temps, on mesure les distances en temps-lumière. Donc on parlera de ça la prochaine fois.
Ok.
Merci Pierrick pour toutes ces informations sur Voyager.
Avec plaisir. Et du coup, ça nous amène à. au thème de Newton.
C'est ça, à la dernière rubrique, la rubrique Abrac, où là, cette semaine, on va parler de Newton. Alors, Sir Isaac Newton. Donc là, on est à la fin du XVIIe siècle en Angleterre. Et là, on a affaire à quelqu'un qui est une figure majeure de la physique et un père fondateur de la physique contemporaine et aussi de l'astronomie, mais aussi des mathématiques et on le verra, de l'alchimie,
Il a fait plein de choses, le gars.
Et aussi de théologie. En préparant l'émission, j'ai appris ça. En fait, il a plus écrit de mots dans tout, parce qu'il a écrit une quantité de choses... astronomique.
Ouais.
Et il a écrit plus de mots concernant la théologie que concernant la science, quand même.
Ah ouais. Ouais. La théologie, Dieu, quoi.
Ouais, la théologie.
Mais rapport création de l'univers ou...
Non, des trucs. Alors, je ne suis pas allé plus loin dans mes recherches, ah, okay. Franchement, je ne sais pas. Mais c'est ce qui se dit sur Wiki.
On en reparlera,
etc. Alors. Voilà. En tout cas. Alors, c'est marrant parce que rubrique Abrac, Gottlieb, il y a quand même un dessin super célèbre là-dedans qui est justement Newton. On le voit là avec sa petite perruque, avec ses petits mocassins à boucle qui
fait une petite sieste.
Qui fait une sieste sous un pommier. Et là, la pomme qui tombe et là, Eureka. Black. Et c'est la gravité. Hein. Qu'est-ce qui fait tomber la pomme de l'arbre ? On parlait tout à l'heure des sondes Voyager, des effets de fronde gravitationnelle. On tombe vers quelque chose. C'est pareil, si vous sautez du haut d'un plongeoir, en fait, vous tombez vers la Terre. Quoi. On est toujours attiré vers le centre de la Terre. Ce qui explique pourquoi les gens en face de nous, aux antipodes, n'ont pas la tête à l'envers. Ils sont attirés vers le centre de la Terre. Donc, comme on est sur une boule, on est toujours à la verticale. Quoi.
Comme la Terre est attirée par le Soleil.
Ouais.
C'est...
Mais ça, c'est encore autre chose. Là, c'est vraiment la Terre toute seule. La Terre elle-même, c'est son propre champ. Nous, on n'est pas. Le Soleil, il a un effet gravitationnel qui est vraiment faible sur nous.
Ok, d'accord.
Infime. Donc, Newton, il a fait énormément de choses. Là, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est son travail sur la gravité. Et donc, c'est l'auteur de. La formule de la gravitation universelle. Donc cette formule, c'est une formule majeure de la physique moderne même, et qui n'a été détrônée que par Einstein en 1900. Alors détrônée, disons inclus.
Confirmée, quoi. Non
ben confirmée, oui, mais surtout incluse, quoi, par la relativité générale. En fait, si vous
intégrer dedans la.
Voilà.
Où elle devient. Parce qu'on disait sur le coussin qui se déforme voilà, quand on met une boule dessus, une orange. Ouais.
Ça, Newton, il n'en tient pas compte.
D'accord.
Donc, mais il fait cette formule, en fait, qui donne la valeur et la direction, l'intensité de la force qui va s'exercer entre deux corps qui s'attirent l'un l'autre. Donc, il pose une formule et il dit, voilà, ça va faire tant de Newton, d'ailleurs, maintenant. C'est dans cette unité qu'on mesure l'intensité d'une force. On aura l'occasion de revenir sur le concept de force parce qu'il est majeur en physique et c'est lui aussi qui l'a posé. Et ça, ce sera dans la troisième émission parce que c'est en lien clair avec l'alchimie et tous ses travaux dans cette direction-là.
On parlera de Star Wars aussi.
Voilà, on parlera aussi de Yoda et de tout ça. Et donc, il pose cette formule. Et là, en fait, ça a peut-être l'air de rien, mais c'est énorme parce que c'est Donc, on l'a dit, c'était un mathématicien et c'est la première fois dans l'histoire de la pensée humaine qu'on pose le concept de dire je peux décrire le monde physique que j'observe par une formule mathématique. Or, les mathématiques sont une abstraction. On l'a dit, la Terre n'est pas une boule parfaite, ça n'existe pas dans la nature. Dire je peux décrire l'univers grâce aux mathématiques, c'est déjà en fait une étape conceptuelle qui est énorme.
Et, ouais,
et qui n'est pas du tout évidente en fait.
Tout est mesurable, quantifiable.
Et donc, il établit en fait des relations entre les grandeurs en puissance. Donc là, en l'occurrence, les masses respectives des deux corps et leur distance. C'est ça qui compte pour lui. Et ce qui compte aussi, c'est que s'il veut réellement pouvoir mesurer cette force, parce qu'il fait évidemment, lui, les expériences qu'il va faire, c'est surtout sur le champ gravitationnel de la Terre.
Oui.
Donc,
la fameuse pomme.
Voilà, lui, après il va simplifier cette force, il la donne dans le cas général, et ensuite il va la calculer pour la Terre,
ouais.
Et il va l'utiliser pour appliquer ça à tout un tas de petits problèmes physiques du monde quotidien, de l'environnement terrestre. des solides sur une table, je décris des systèmes, je fais un bilan de force, etc. Ça, okay. C'est pour ceux qui sont allés un peu au lycée, qui ont fait des études même un peu scientifiques, vous vous rappelez sûrement de ça en physique, de faire un bilan de force, c'était tout le temps la base de tout. Quoi.
Ok.
Ça, c'est Newton. Et donc, il démarre sur cette formule, et donc, comme je disais, il fait les applications numériques pour que ça marche, hein, pour vraiment pouvoir calculer à quelle vitesse va tomber la bille quand je la lâche sur un plan incliné à 37 degrés, ce genre de choses. Il l'a fait, tout ça.
D'accord.
Donc, il sort cette formule et il introduit ce qu'on appelle la constante de gravitation universelle. C'est-à-dire, il dit tout ça, il faut le multiplier par un nombre qui va valoir tant, parce qu'il fait les mesures pour le déterminer. Et que si on ne met pas ce nombre, en fait, ça ne marche pas, les applications numériques. Et c'est toujours le même nombre. Quelle que soit la situation, il y a toujours cette constante qui apparaît.
Ah ouais.
Ça, c'est hyper important aussi.
Il sort d'où ce chiffre, c'est quoi, du coup ?
Il sort du chapeau, il sort des mesures, en fait.
D'accord.
Il sort de dire que si je veux que...
À chaque fois, il a mesuré et il en a déduit que...
Ouais, ouais, il y avait cette constante de la gravitation universelle. Qu'est-ce qui se cache là-dessous ? Alors là, gros mystère.
Ah ouais.
Et des constantes comme ça, il y en a quelques-unes en physique, il n'y en a pas 200 000, il y en a 4 ou 5.
Et ça, on ne l'explique pas, quoi.
La charge de l'électron, la masse du proton, des choses comme ça qui sont des données de l'univers physique qui nous entoure.
Ok.
Ça, la physique les détermine, mais ne peut pas prédire leur valeur.
D'accord.
Fait même des modèles. Imaginons que cette constante est une autre valeur, alors qu'est-ce qu'il faudrait ? Bon, il y a toute une physique imaginaire qui peut se développer, et certains ont un peu creusé ça, mais voilà.
C'est peut-être pour ça qu'il est parti dans des trucs plus théologiques pour expliquer.
Non, ça, il y était déjà, c'est son éducation. Bon, en tout cas, là, on parle de la gravité, donc de cette formule. Voilà, et c'était ça que je voulais surtout mentionner. C'était ce point de départ de la pensée occidentale, de dire je vais décrire l'univers avec des formules mathématiques. Et ça, ensuite, ça a été... ils n'ont fait que ça, en fait. Enfin, les physiciens n'ont fait que ça.
Encore maintenant.
Et des mesures, des calculs, enfin tout ça, c'est la base. On n'est pas sorti de cette vision-là.
Okay.
La physique, elle est là. Elle commence là, en fait.
D'accord.
Donc c'est là qu'il est fort. Après, il a fait d'autres choses en optique. On en parlera peut-être. On en parlera la semaine prochaine, parce que il a quand même
inventé
le télescope type Newton, etc. Voilà. Ça, il n'a pas inventé la lunette, mais il a inventé le télescope, etc.
Ouais.
Il a décomposé la lumière, fait des prismes, bon. Donc quelqu'un qui est quand même très intéressant, c'est pour ça que j'ai décidé d'y consacrer 3 émissions et de commencer par lui. Montrer aussi sa complexité. Bon, Pierrick,
ouais.
Je crois qu'on arrive à la fin de cette émission,
merci.
La première. On s'en est pas trop mal tiré. En tout cas,
on s'excuse pour les erreurs et les couacs.
Les petites imperfections, on va faire notre chemin avec vous dans cette émission tous les dimanches matins sur l'heure d'Ivoire de 9h à 10h. Et en tout cas, on espère que vous prendrez plaisir à nous écouter et à observer surtout le ciel. Bonne semaine à vous, au revoir.
Merci.